Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait bon temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Soupon.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Bonjour et bienvenue dans Prosopopée, votre nouveau rendez-vous culturel. Un lundi par mois, de 17h30 à 18h, nous évoquerons ensemble la mémoire d'un auteur, d'un poète, d'une chanson, d'un musicien.
C'est le début de semaine, vous avez tout votre temps, tout va bien, le trafic est fluide, vos idées sont claires. Accordez-vous cette demi-heure de découverte en notre compagnie.
Nino Ferrer. C'est une chance de vous avoir sur un plateau de télévision, ça se fait très rare. Depuis plusieurs années, vous n'accordiez plus d'interviews ni à la télévision, ni à la radio, ni à la presse écrite. Vous viviez replié sur vous-même, signataire de pétition contre le nucléaire. C'est un changement de vie.
Oui, il y a 3 ans, je suis parti m'installer à la campagne maintenant et j'ai arrêté pratiquement toute promotion sur mes disques. J'ai continué à faire des disques, mais j'ai arrêté toute promotion.
C'est-à-dire alors pourquoi ce départ il y a 3 ans et pourquoi ce retour maintenant?
Parce que 3 ans étant passés, d'une part j'en ai un petit peu plus envie, si vous voulez, et puis d'autre part j'ai un disque que j'aime bien et que j'ai envie de faire connaître au public. C'est pour ça d'ailleurs que je suis remonté sur scène, après 10 ans d'interruption. Là.
Oui, alors c'est la nouvelle, nouveau changement là aussi, 10 ans hors de scène, et tout d'un coup, depuis la semaine dernière, on retrouve Nino Ferrer sur les tréteaux.
Ouais,
je suis quand même surpris. Vous aviez annoncé que vous vouliez vous retirer à la campagne ou presque, vivre une vie très écologique.
Oui, mais je me suis retiré à la campagne.
Et là vous repartez dans le showbiz.
Ouais, mais il paraît que depuis quelques années, il y a eu une évolution en France au niveau du public, des jeunes, qu'il y a maintenant des gens jeunes qui aiment le rock'n'roll et la pop musique. Bon, alors je vais voir.
Vous croyez que c'est un public qui va retrouver Nino Ferrer avec plaisir?
Ah, ça, j'en sais rien, je sais pas très bien lequel Nino Ferrer, vous savez, parce que comme je fais des chansons différentes suivant les humeurs du jour, comme vous pouvez avoir envie de manger des spaghettis un jour et de la pizza le lendemain, moi il me vient un jour une chanson d'amour et le lendemain une chanson gaie ou triste ou engagée suivant ce qui se passe dans le monde et ce que je ressens. Alors finalement les gens savent pas très bien qui je suis.
Qui vont retrouver?
Parce que le téléphone et la maison près de la fontaine, c'est pas exactement la même chose.
Qui est Nino Ferrer?
Pour le commun des mortels, Nino Ferrer, c'est ce chanteur rigolo aux allures de dandy aristocratique qui a parcouru les années 60 en cherchant son chien Mirza.
Celui qui a fait l'inventaire d'un pique-nique pas si réussi que ça, où l'on pense aux cornichons mais où l'on oublie le parapluie.
Celui qui, se faisant passer pour Gaston, oublie à chaque fois de répondre au téléphone.
Celui qui perd tout ce qu'il possède mais qui ne veut pas qu'on se moque de lui. Oh, hé, un bon.
Ou bien encore celui qui clame haut et fort qu'il voudrait être un noir, rendant ainsi hommage au maître de la soul et du rhythm and blues qu'il admire tant. Otis Redding, Wilson Pickett et autres James Brown.
Mais Nino, ce n'est pas que ça. Ça serait trop facile. Ce n'est pas le genre d'artiste qu'on range dans des cases comme on a trop longtemps voulu le faire croire. Nino, c'est aussi cette douce mélancolie qu'on retrouve dès le début de sa carrière avec des chansons comme « Un an d'amour, c'est irréparable »,« Un premier jour sans toi » ou bien « La Rua Madurera », qui sur un air de bossa nous conte l'histoire d'un amour contrarié par la mort de l'être aimé dans un accident d'avion. Avec pour toile de fond la baie de Rio et le Corcovado.
Nino, c'est aussi à l'aube des années 70, un homme qui prend conscience avant l'heure des enjeux écologiques, en nous parlant d'une maison près de la fontaine, qui bientôt sera rayée de la carte pour devenir un supermarché. Il pointe aussi du doigt la folie de l'homme, sa course au profit et son tempérament belliqueux à l'image de son sud, sorte de pays fantasmé, loin des villes, où les humains côtoient les animaux en harmonie mais voués à disparaître, à l'image de ce couplet désabusé qu'il chante à la fin. Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerre, on le sait bien.
Nino Ferrer, c'est donc tout ça. Comme il le dit, c'est cette volonté de manger des spaghettis un jour et de la pizza un autre. Chose si difficile à comprendre pour les journalistes. Habitués à ce qu'un artiste nous reserve tous les jours le même plat, à ce qu'il nous ponde un mirza à chaque fois. Mais après tout, il n'y a pas que la pepperoni dans la vie.
Ayant joui du succès des années 60 et mené la grande vie, Nino prend peu à peu conscience du piège que représente le star system, Cette manie qu'il a de toujours vouloir étiqueter, de mettre dans des cases, d'être uniquement guidé par le profit au détriment de la qualité. Et tout cela va peser sur Nino, et ce, jusqu'à la fin de sa vie.
Après y être entré par la grande porte, Nino la claque au crépuscule des années 60, pour se consacrer à la vraie musique, comme il l'appelle, et donner à entendre tout au long des années 70 des morceaux d'une richesse inouïe.
Je vais te dire adieu, la belle vie, ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire adieu, la fête est finie. Pour moi, je vais te dire adieu, le rouge et le noir, ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire adieu, la fête est finie. Pour moi, je vais te dire adieu, le pour et le pire, ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire adieu, la fête est finie. Pour moi, je vais te dire adieu, le n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Je vais te dire adieu, la fête est finie. Pour moi.
Vous avez toujours douté comme ça ?
Non, au début non. Je venais d'un milieu contre lequel je n'étais pas en révolte, parce que je viens d'un milieu bourgeois, mais je n'étais pas en révolte contre ma famille, parce que c'était des gens merveilleux tous, nobles d'esprit et généreux et cultivés, etc. Et le déclic finalement, ça a été entre 68, disons, et 72, par là que ça m'est arrivé. J'avais donc 35 ans, ou j'approchais des 40 ans. Et 68, moi j'ai mal réagi au débat, au départ, hein, parce que je ne m'occupais pas de politique, je ne me souciais pas de social, ni de rien, et puis finalement, 68...
Vous aviez les cheveux longs
quand même.
Pardon ? Vous aviez les cheveux longs quand même.
Ouais, mais ça c'est parce que je trouvais que les cheveux longs m'allaient mieux que les cheveux courts. J'ai les oreilles décollées, et le dégradé, ça ne m'allait pas du tout. Quoi. Moi, à 68, c'est venu me casser la baraque. J'étais en pleine ascension vers le succès planétaire. Ça m'a juste cassé la baraque.
Donc, poum.
J'étais pas heureux, quoi. Vraiment pas du tout. Puis après, quand même, je me suis aperçu qu'il s'était passé des choses importantes et intéressantes, quoi, là-dedans. Et je disais entre 68 et 72, parce qu'en 72, j'ai découvert la différence qu'il y a entre la musique et la musac, c'est-à-dire la vraie musique, quelle qu'elle soit, et puis celle qu'on entend dans les ascenseurs et dans les pissotières. Et ça a été très important pour moi.
En 1971, la mue est entamée et Nino sort son premier album d'homme libre, Métronomie, œuvre résolument novatrice, presque d'avant-garde, qui signe une entrée fracassante dans cette nouvelle décennie.
Cet opus n'est pas comme les précédents, une succession de chansons sans lien les unes avec les autres, mais un tout qu'il faut écouter d'une traite.
Depuis quelques années, la mode est au concept album, le Sgt Pepper's initié par les Beatles en est la figure de proue.
En France, à cette époque, Nino n'est pas le seul à revendiquer sa liberté créative. Un certain Serge Gainsbourg, qui après avoir retourné sa veste de vison, sort l'histoire de Melody Nelson, album culte qui sera un échec commercial, mais qui aujourd'hui est régulièrement considéré comme son chef-d'œuvre.
Comment ne pas parler aussi de Gérard Manset, qui sort la même année La mort d'Orion, affirmant un peu plus sa singularité et semant derrière lui grand nombre d'aficionados, vouant un culte à cet artiste pour le moins discret. Pour l'heure, Nino, résolument dans l'air du temps, nous invite au voyage, à l'évasion spirituelle.
We'll be right back.
Ouais, c'est la guerre au métèque. Blanche-Neige, Stick, Kiff, Trip et Joint, Hervé voyage au bout de l'acide lysergique, dit-il, la mine et la nuit. Aux hormones, yeah. La mer pleine de merde, yeah. Le monde en plastique, yeah. La structuration, le métro, cannabis syndicat, chanvre et Marie-Jeanne, opium hashish, Blanche-Neige. Stick, if to bed, joint, Hervé voyage au bout de la civilisation, dit-il, la nuit et la nuit. Et la nuit. Et la nuit. Et la nuit.
Dans cet album, Nino passe avec aisance du rock progressif au jazz rock, du rhythm and blues à la ballade écologique, dénonçant coup sur coup les problèmes sociétaux de l'époque. Industrialisation, début de la surconsommation, maladies, guerres, etc. Bref, Nino se sent de moins en moins en phase avec son époque. Le disque est bien accueilli par la presse, mais c'est un échec commercial. Le public ne comprenant pas ce virage pour le moins marqué. Seule la maison près de La Fontaine, sortie en simple, va rencontrer un large succès. Mais au lieu de faire connaître l'album cher à Nino, il va au contraire l'occulter à son grand désarroi. Il confiera des années plus tard à propos de Métronomie. J'étais hors de moi de ne pas pouvoir faire écouter cet album, alors que je pensais avoir réussi un bon truc. Là, j'ai commencé à me révolter.
Durant l'été 72, Nino fait une rencontre décisive dans son orientation musicale. Alors qu'il traîne du côté de Saint-Tropez, un ami lui fait rencontrer un guitariste anglais qui joue au Papagayo, boîte de nuit mythique de la ville. Il s'appelle Mickey Finn. Entre les deux, le coup de foudre est immédiat, aussi bien artistiquement qu'humainement. Nino dira de lui « Mickey m'a fait comprendre la différence entre la vraie musique, celle qui te prend aux tripes, faite avec sincérité et rage, et la musique que tu entends dans les chiottes et les ascenseurs. » Mickey l'initie au rock, le vrai. Il faut dire qu'il a déjà joué avec Jimmy Page, le leader de Led Zeppelin, et le groupe mené par Van Morrison, Them.
Très vite, les deux larrons collaborent à la création d'un nouvel album de Nino. Ce sera Nino Ferrer and Legs, sorti en 73, enregistré avec des musiciens anglais que Mickey a présenté à Nino. Dans la droite lignée de Métronomie, ce nouveau disque plus rock regorge de trouvailles, d'arrangements sophistiqués, de riffs, de guitares implacables.
Pourtant, encore une fois, le disque sera boudé par le public, malgré les critiques élogieuses d'une partie de la presse.
Encore une fois, le public tourne le dos à cet artiste qui pourtant fait montre d'une grande liberté, d'une maîtrise du son peu commune à cette époque et de compositions ambitieuses.
Désireux de s'émanciper encore un peu plus de l'industrie musicale, il fait construire son propre studio chez lui, dans sa maison en banlieue parisienne. Au même moment, il fait la rencontre à l'été 73 de Radia Fry, une mannequin new-yorkaise avec qui l'entente est si bonne qu'ils décident d'enregistrer un album ensemble.
Don't do what I do.
Simplement intitulé Nino en Radia, ce disque est plus apaisé que les précédents et est entièrement chanté dans la langue de Shakespeare.
Il s'en dégage une certaine douceur d'où surgit parfois des pointes d'amertume et de nostalgie. Tout cela renforcé par l'alchimie des voix de Nino et Radia. Le disque s'ouvre sur le morceau South, première mouture de ce qui deviendra le Sud.
Une fois encore, l'album sera un échec commercial, mais cette fois, son ami et producteur Bernard Estardi, véritable faiseur de tubes, décide de reprendre les choses en main. Flairant le potentiel musical de ce morceau d'introduction, il demande à Nino de venir le réenregistrer dans son studio et d'adapter le texte en français, ce qui donnera Le Sud, le plus gros succès de Nino avec plus d'un million de disques écoulés dans l'Hexagone.
Et pourtant, celui-ci fut fort mécontent du résultat final, n'étant pas satisfait des arrangements opérés par Estardi. Le piège se referme une deuxième fois sur l'artiste. À l'époque, suite au succès de Mirza, on lui demandait inlassablement de le rejouer à toutes les sauces, si bien qu'il en fut dégoûté. À présent, le phénomène se répète pour le Sud, qui au fil du temps s'est imposé comme un standard de la chanson française.
Il confiera peu de temps avant son suicide, en 1998, à son ami Richard Bennett. « Tu te rends compte? J'ai écrit, composé et produit près de 200 chansons, et les gens n'en connaissent que 3. C'est comme un peintre prolifique dont on ne connaîtrait que 3 tableaux, car tous les autres sont dans des coffres. » En 75 sort son nouvel album, Suite en 9. Album cette fois-ci plus inégal, composé de morceaux anecdotiques, mais rehaussé par quelques perles à l'image de Moon, qui avec son orchestration ambitieuse nous parle de vide existentiel, des morceaux de fer, et surtout de chansons pour Nathalie qui évoque le décès prématuré d'une fan du chanteur dans un accident de la route.
Encore une fois, l'album est un échec.
Pas découragé pour autant, Nino va durant 3 mois avec ses musiciens s'enfermer dans un château pour faire ce qu'il aime par-dessus tout.
Jouer de la musique qu'il aime avec des gens qu'il aime.
Entre octobre et décembre 76, Nino loue le château de Blana dans le Lot. L'idée est de s'isoler avec des musiciens pour créer et enregistrer une œuvre collective. Son vieux copain, Mickey Finney de la partie, et un certain Gilbert Montagnier se joint à eux.
Les deux hommes se sont croisés quelques mois auparavant sur les plateaux de télévision. Le courant est bien passé, Nino a proposé à Montagnier d'enregistrer son premier album chez lui. Ce dernier dira à propos de l'aventure Blana.
On vivait en vase clos, un studio avait été aménagé là-bas et on tournait tous les jours. Je composais, il composait. On était dans le château toute la journée, on jouait et on enregistrait jour et nuit. Il n'y avait pas d'horaire, c'était libre.
Finalement, toutes les musiques ébauchées durant ces séances d'enregistrement seront réenregistrées avec les Legs et deviendront l'album connu sous le nom de Blana.
Début 77, le disque est pratiquement fini. Seulement, Nino ne souhaite pas le sortir de suite.
Il doit à sa maison de disques CBS un dernier opus. Sauf que Nino n'est pas satisfait de la manière dont ils ont traité ses derniers albums, notamment sur le plan de la promotion qui fut quasi inexistante.
Craignant que sa dernière production dont il est fier ne connaisse le même sort, il décide d'enregistrer un album à la va-vite, ce qui donnera véritable variété verdâtre, pied de nez à la musique pour ascenseur, la variétoche comme il l'appelle, qui sort dans l'indifférence générale.
Entre-temps, Nino et sa compagne Kinou, désireux de quitter l'agitation de la ville, repèrent une ancienne bastide du XVe siècle, nommée la Taillade, située dans le Quercy à quelques kilomètres de Montcuq, et en tombent immédiatement amoureux. Le couple s'y installe très rapidement et assouvit ses envies de calme et de nature.
À la question « Pourquoi ce départ ?», Nino répond « Parce que j'en ai marre et plus que marre. J'en ai marre de ce système pourri qui, en France, entoure la musique de quelque nature qu'elle soit. La musique que nous aimons, toi, moi, les lecteurs de ton journal, est complètement sous-estimée au profit d'une autre à laquelle je n'ose même pas donner l'appellation de musique tant elle est vulgaire, basse, fausse, de la débilité la plus triste qui soit. »
Blana sort finalement 2 ans après sa conception en 79. Pourquoi un tel délai ? Tout simplement parce qu'entre-temps, Nino a dû chercher une nouvelle maison de disques. Et surtout parce qu'il souhaite le faire mixer par un grand producteur. Chose qui n'arrivera pas. À court d'argent, Nino se résout à le sortir en l'état. C'est-à-dire non mixé sur un petit label indépendant du nom de Freebird. Nino considérera toute sa vie Blana comme son chef-d'œuvre. Hélas, encore une fois, le public, à la différence de la critique, ne suivra pas. Il faut dire qu'à cette époque, la musique punk est à son apogée. En France, de nouveaux groupes émergent chargés d'un rock efficace et direct, à l'image de Téléphone ou de Trust, loin de l'influence rock progressif et de ses longues pistes de 5 à 6 minutes à l'œuvre dans ce dernier album.
La fin de la décennie 70 sonne la fin des espoirs pour Nino Ferrer et ses envies de changer le monde du show business. La décennie à venir sera ponctuée d'albums beaucoup moins inspirés, signant le début d'une longue traversée du désert qui, hélas, ne prendra jamais vraiment fin. La liberté a un prix et il le paye argent comptant. Sa prise de distance avec l'industrie du disque lui aura coûté cher également. Les années 70 furent pourtant pour Nino Ferrer exceptionnellement créatives. Il a cherché, tenté de repousser les limites de la musique et ses propres limites. Il a tout fait pour briser l'image du chanteur rigolo des années 60, alors qu'il aurait pu, comme il l'a souvent dit, choisir la facilité et reproduire sous toutes les déclinaisons possibles ces chansons qui lui ont ouvert les portes du succès.